La mort du pape François, il s'est éteint hier après-midi pour nous à l'âge de 88 ans. Il avait été élu en 2013 après la renonciation du pape Benoît XVI. Revoir et surtout réformer le modèle fiscal et social en Calédonie, c'est le but du séminaire organisé pour 4 jours par le gouvernement sous l'impulsion de Christopher Gigès. Il y a du changement dans les offres de l'OPT. L'Office des Postes et Télécommunications renforce l'accès au numérique pour tous les Calédoniens cette année. Le sport et les mini-jeux du Pacifique, c'est dans un peu plus de 2 mois à Palau. Les différentes disciplines n'ont plus que quelques jours jusqu'au 1er mai pour envoyer la liste des athlètes sélectionnés. Et puis la voile avec la régate de préparation à la Groupama Race qui avait lieu ce week-end. Toute la flotte est arrivée. Le dernier a passé la ligne d'arrivée hier après-midi. Bonsoir et soyez les bienvenus dans ce journal. La communauté catholique en deuil, mais au-delà, c'est le monde entier qui est touché par le décès du pape François qui aura régné pendant 12 ans. Il est donc mort hier à l'âge de 88 ans et ses funérailles devraient se tenir dans les prochains jours en présence de nombreux fidèles et dignitaires avant le conclave qui sera convoqué pour élire son successeur Elisabeth Noir.
Le Vatican annoncera demain la date des funérailles du pape François. Tous les cardinaux ont d'ores et déjà été convoqués au Vatican pour une première congrégation générale, à l'issue de laquelle devrait être communiquée la date des obsèques du chef de l'Église catholique. Déjà affaibli par une sévère pneumonie, le premier pape sud-américain et jésuite de l'histoire a succombé hier matin, le lundi de Pâques, à un accident vasculaire cérébral, au terme de 12 ans de pontificat, qui aura été marqué à la fois par une grande popularité, mais aussi par une certaine opposition au sein de l'Église. Sa dépouille devrait être transférée de la résidence Sainte-Marthe vers la basilique Saint-Pierre à partir de mercredi pour y être exposée aux fidèles sans catafalque, conformément aux volontés du pape argentin qui a souhaité introduire plus de simplicité et de sobriété dans ses obsèques. Dans son testament, le pape François dit vouloir être inhumé à la basilique Sainte-Marie-Majeure, dans une sépulture sans décoration, avec pour seule inscription son nom en latin, Franciscus. Dès hier soir, des milliers de fidèles se sont rassemblés place Saint-Pierre pour participer à une prière publique.
L'émotion est vive partout dans le monde et à Paris hier soir, les cloches de la cathédrale Notre-Dame ont sonné 88 fois pour les 88 ans du pape François. Les fidèles s'y sont rassemblés pour une prière publique et un livre d'or a été mis à disposition pour y laisser des messages d'hommage. La tour Eiffel a été éteinte en signe de deuil. Les dirigeants du monde entier rendent hommage au pape François, dont les funérailles devraient avoir lieu entre vendredi et dimanche. Des dizaines de chefs d'État et de têtes couronnées devraient assister à cette cérémonie solennelle, Elisabeth.
Le président américain Donald Trump a d'ores et déjà annoncé qu'il se rendrait aux funérailles avec sa femme Melania. De l'Iran à l'Allemagne, en passant par les États-Unis, l'Union européenne, l'ONU, le Liban, Israël ou l'autorité palestinienne, les dirigeants du monde entier rendent un hommage unanime au pape François. Le chef d'État russe Vladimir Poutine a salué un défenseur de l'humanisme et de la justice, tandis que le président ukrainien Volodymyr Zelensky remerciait celui qui a prié pour la paix en Ukraine et pour les Ukrainiens. Son compatriote, la star du football Lionel Messi, a évoqué quant à lui un Pâques différent, proche, argentin. Le pape François avait été élu à la tête de l'Église catholique le 13 mars 2013, il y a 12 ans, pour succéder à Benoît XVI qui avait renoncé à sa charge. Il avait été élu 266e pape de l'Église catholique. Il a été appelé le pape des pauvres ou encore le pape des migrants. Très affaibli ces derniers temps, il était sorti de l'hôpital le 23 mars et il avait multiplié les apparitions publiques ces derniers jours, malgré l'avis de ses médecins qui lui avaient prescrit un strict repos de 2 mois. Il était apparu épuisé dimanche pour la dernière fois à l'occasion des célébrations de Pâques. Il s'était tout de même offert un bain de foule en papa mobile sur la place Saint-Pierre.
Le décès du pape François suscite aussi des réactions en Nouvelle-Calédonie. Kalinda Boako a recueilli le sentiment de plusieurs Nouméens.
C'est toujours attristant d'avoir une personnalité qui part comme ça. Pour la communauté catholique, comme toutes les communautés, je veux dire, qui sont croyantes, c'est important encore aujourd'hui d'avoir la foi.
Je l'ai appris hier, ça va être un moment qui va rester gravé. C'est choquant, mais aussi en priant. Je me suis dit, ben voilà, il se rapproche du Seigneur, sa mission elle est terminée. Et je vais me joindre à toute la communauté chrétienne pour prier et puis que le prochain pape, ben, ça soit un choix éclairé par l'Esprit Saint.
C'est avec une grande tristesse qu'on a reçu donc la nouvelle, parce que c'est un grand homme de foi. Il porte un peu l'image de tous les chrétiens de profession catholique. Et il a beaucoup œuvré dans le monde entier, quels que soient les religieux qu'il a rencontrés, des différentes congrégations. Donc c'est un homme vraiment important qui a essayé donc d'amener la paix là où il passait. comme tous les autres papes d'ailleurs. Et puis on garde la foi qui est bientôt, donc au plus vite, un autre pape.
C'est un peu lui qui remplace le Seigneur, qui nous pardonne nos péchés, tout ça. Il fait la prière pour nous, il prie tout pour nous.
Ça fait pitié pour tous les catholiques. Bah, paix à son âme pour lui.
Je suis protestante, mais ça me touche pas.
C'est une perte pour l'Église, hein, la communauté catholique. Hein, et puis c'est une perte un peu pour nous tous. Hein, pas que la communauté catholique, mais pour l'ensemble des autres religions.
Réaction également du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui a appris avec une grande tristesse le décès de sa sainteté, le pape François. Dans un communiqué, il indique que le pape François a marqué l'histoire contemporaine de l'Église catholique par son humilité, son engagement en faveur des plus démunis, son souci de la justice sociale et son appel constant à la paix. Le gouvernement qui adresse ses sincères condoléances à la communauté catholique de Nouvelle-Calédonie ainsi qu'à l'ensemble des fidèles éprouvés par cette perte. Génération NC aussi adresse son soutien à la communauté catholique. Dans un communiqué, le parti souligne qu'en Nouvelle-Calédonie, ce deuil résonne avec une intensité particulière, alors que la communauté catholique a déjà été meurtrie par des attaques contre les églises lors des exactions de mai dernier. Des réactions également, Elisabeth Noir, dans l'église de Nouvelle-Calédonie.
Dès ce matin, vous avez pu entendre la réaction du père Jean-Paul Pouillet, le père Ngo, le curé de l'église du Vœu. Parle-lui d'un choc à l'annonce de la mort du pape François. Le père Ngo qui se souvient de l'avoir approché à l'occasion de plusieurs JMJ, les Journées Mondiales de la Jeunesse.
Pendant les JMJ, lorsque le pape est arrivé à Lisbonne, nous étions avec 5 jeunes, on a sauté sur les épaules les uns des autres. Vous voyez, le pape, il était à peine à 3 mètres devant nos yeux. Et joie pour nous tous de voir le Saint-Père, même s'il était âgé, fatigué, mais il a montré une énergie de jeunesse. Et moi, je garde un grand souvenir, non seulement cela, mais lorsqu'il a été en Pologne, il a adressé aux JMJ les paroles extrêmement pratiques et puissantes, percutantes. Il disait, moi je garde une de ses paroles très importantes, il ne faut pas rester sur le canapé, il faut sortir du canapé. C'est-à-dire, il faut aller dans les péripéties. Et encore, il dit aussi, il ne faut pas être comme les perroquets, mais il faut agir, c'est-à-dire des actions.
Monseigneur Calvé, l'archevêque émérite de Nouméa, a bien connu le pape François qu'il a rencontré une première fois quand ils étaient tous deux évêques en 1994. Mais il l'a ensuite vu à plusieurs reprises. Il insiste sur sa simplicité et il évoque également les circonstances de son décès.
Il avait une volonté qui était forte. Il savait ce qu'il voulait, il savait ce qui lui plaisait pas. Et donc, le signal qu'il voulait donner, et je pense que symboliquement, c'est quand même étonnant, et il a pu faire en sorte que toute la Semaine Sainte se passe complètement et entièrement. Et puis, c'est seulement après qu'il est parti. À ce moment-là, il a pensé que c'était peut-être un bon moment. Symboliquement, c'était le moment de partir. Et c'est bien. Il n'a pas eu de longues agonies qui sont quelquefois difficiles pour tout le monde, et en particulier pour l'intéressé.
Partir au moment de Pâques, c'est un signe pour l'Église ?
Ah ben, c'est un signe, donc il nous montre le chemin du ciel, c'est simple. La vie éternelle, le dernier message qu'il nous a donné, c'est « Suivez-moi ».
Monseigneur Calvé interrogé aussi sur les prochaines étapes, les funérailles du pape François et l'élection de son successeur.
On va bientôt savoir quel jour auront lieu les funérailles. À ce moment-là, je pense que dans les diocèses, on marquera aussi l'occasion par une messe solennelle dans les différentes paroisses, au moins à la cathédrale. Et puis après, ça va être une autre affaire, ça va être la réunion des cardinaux. D'abord, l'ensemble des cardinaux, quel que soit leur âge, pour parler des questions qui intéressent l'Église universelle. Et puis, une fois que ces premières réunions auront été faites, il y aura ce qu'on appelle le conclave, c'est-à-dire les réunions d'élection avec uniquement les cardinaux qui ont moins de 80 ans. Et c'est eux qui procèdent formellement à l'élection du pape. Ça va prendre un peu de temps. On peut imaginer qu'au plus tard, vers la mi-mai, la chose sera faite. Et donc, on aura un autre pape qui sera à la tête de l'Église et qui, avec d'autres qualités, pourra donner une nouvelle impulsion.
Et l'archevêque émérite de Nouméa estime inutile de s'interroger sur l'identité du futur pape.
Vous connaissez le proverbe romain, celui qui rentre pape au conclave en ressort cardinal. Ça veut dire que c'est très difficile. Et je dirais que c'est pas tellement intéressant de faire des pronostics, sauf pour les gens qui font ça pour faire des paris, mais ça c'est autre chose, c'est du jeu. On attend de toute façon, avec confiance, qu'il y ait un pape qui soit désigné et on regardera, selon la tradition, quand va sortir la fumée blanche.
Et Monseigneur Sione Poé, le nouvel archevêque de Nouméa, devrait s'exprimer prochainement, notamment pour dire comment l'Église de Nouvelle-Calédonie s'associera au deuil du pape François. Ce qu'il faut retenir, c'est donc qu'une première réunion des cardinaux aura lieu ce mardi pour organiser les funérailles du pape François qui auront lieu entre vendredi et dimanche. Avant cela, dès mercredi, la dépouille du pape sera exposée dans la basilique Saint-Pierre pour permettre aux fidèles de lui dire adieu. Le testament du pape révèle qu'il a demandé à être inhumé en la basilique Sainte-Marie-Majeure et non dans la basilique Saint-Pierre, comme tous ses prédécesseurs. Dans Casa Vajour, 135 cardinaux se retrouveront en conclave dans la chapelle Sixtine pour élire un nouveau pape et son élection sera signalée, bien sûr, par la fameuse fumée blanche.
Quel souvenir va laisser le pape François après la mort du pape? Que va-t-il se passer? Comment se déroule un conclave? Demain, à 7h30, nous serons en direct de Rome. C'est en effet Jean-Charles Puzzolu, responsable de la rédaction francophone de Radio Vatican, qui sera notre invité du matin. Actualité religieuse dans le magazine Citoyen également ce midi. Il était en effet consacré aux catéchumènes et aux recommençants, ces adultes qui choisissent d'entrer ou de revenir dans l'Église catholique lors de la veillée pascale. Nathan, 24 ans, en fait partie. Il a reçu le baptême, mais aussi les sacrements de l'Eucharistie et de la confirmation samedi soir à la cathédrale de Nouméa. Il nous a expliqué pourquoi il avait fait ce choix.
C'est une démarche qui vient de soi, dès le départ. C'est vrai que moi, j'ai quand même grandi dans une famille qui est croyante, mais c'est pas quelque chose qui suffit, c'est quelque chose qui doit venir de soi. Et moi, en l'occurrence, à un moment, ça m'a appelé et j'ai juste décidé de répondre à cet appel au point justement de faire cette démarche, donc de me faire baptiser et de recevoir ma communion. Au bout d'un moment, on se rend compte de ce qui est bon pour soi et du chemin qu'on a envie de suivre. Et là, moi, je suis en plein dedans. C'est une décision qui m'apporte beaucoup, qui m'a apporté et qui continue de m'apporter et qui, je suis sûr, continuera m'apporter beaucoup dans ma vie.
Nathan était accompagné de son parrain Jérémy alors qu'il avait été baptisé dès son plus jeune âge. C'est à Pâques 2024, c'est-à-dire l'an dernier, qu'il a choisi de revenir au sein de l'Église catholique, un moment qui a changé sa vie.
J'ai vraiment le sentiment à travers la vie d'avoir toujours été un peu préservé. Malgré les épreuves, qu'elles soient difficiles ou pas, mais dans l'épreuve, je me suis toujours senti préservé. Je me sens privilégié quand je regarde le monde, parce qu'à travers le monde, on voit qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne peuvent pas vivre librement leur spiritualité, leur religion. Et donc aujourd'hui, oui, je me sens privilégié dans ce sens-là. Le regard sur le monde change très concrètement. Je ne le comprenais pas avant les sacrements, mais après les sacrements, après les avoir reçus, ça se fait tout doucement et je continue à le découvrir. Je sens mon regard changer sur le monde, je sens aussi mon rapport aux autres changer, certainement dû à la foi, mais aussi à la charité et l'espérance, ça c'est certain, dans nos actions, dans nos interactions, et aussi dans le regard que l'on porte sur les actions d'autrui, qui ne sont pas forcément croyants.
Des témoignages de catéchumènes dans le magazine Citoyen ce midi, auquel participait aussi le diacre Gérard Josserand, qui accompagne les catéchumènes pendant leur formation, qui dure environ un an. Citoyen qui est à retrouver en podcast sur notre site internet rrb.nc. Il est 17h58, on va marquer une première pause dans ce journal.
Venez découvrir la suite de la programmation du Théâtre de Lille, La Dernière Allumette, Lumière des Misérables, un spectacle magique, onirique et poétique. La rencontre improbable de la jeune fille aux allumettes et de Gavroche dans le tumulte de la Révolution. Ne ratez pas ce spectacle à voir seul, en couple ou en famille, samedi 26 et dimanche 27 avril à 18h. Réservation sur ticket.nc.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu? Confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonceslegales@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, première radio d'information. RRB, une radio d'opinion.
La suite d'info soir, Lionel Sabot.
À 4 jours pour bâtir une réforme fiscale et sociale en profondeur, c'est l'objectif du séminaire organisé par le gouvernement sous l'impulsion de Christopher Gigès, en charge de l'économie. Il s'est ouvert ce matin au CAPS de la province sud, en présence des partenaires sociaux, syndicats de salariés, syndicats patronaux, fédérations professionnelles et établissements publics concernés. Jean-François Bodin.
Il s'agit d'ouvrir un nouveau pacte de confiance, a souligné Naya Wateu, élue à la province sud en accueillant les participants ce matin. C'est un rendez-vous crucial dans un contexte d'urgence, a poursuivi le président du gouvernement. Alcide Ponga a souligné que ce rendez-vous n'était pas une simple consultation, mais un acte de confiance vis-à-vis des partenaires sociaux et de la société civile. Il a appelé les participants à la responsabilité pour faire de ce séminaire un moment fondateur. C'est en effet tout un modèle qu'il faut repenser, a expliqué de son côté Christopher Gigès.
Aujourd'hui, on n'a plus le choix de changer de modèle et d'être en capacité d'avancer. Le modèle, on va le construire ensemble. Ce n'est pas une question de renverser la chaise. Moi, ce que j'ai dit dans mon intervention, c'est qu'il faut arrêter de faire un copier-coller avec le niveau national, avec avec des normes et des taxes qui se cumulent et qui pénalisent l'économie calédonienne. Et en tout cas, on souhaite vraiment avoir ce travail en commun pour construire notre modèle économique qui recrée de la croissance, qui recrée du profit et qui permet de recréer de l'emploi.
Un thème est développé chaque jour, c'est la réflexion sur l'emploi, notamment la recherche d'une meilleure adéquation offre-demande qui a occupé les débats aujourd'hui, car il conditionne tout le reste, a souligné Christopher Gigès.
Déjà, c'est permettre aux Calédoniens de retrouver un emploi, parce que l'emploi, c'est vraiment le premier moyen d'avoir du pouvoir d'achat et de lutter contre la vie chère, et c'est aussi que l'emploi paye mieux. Et donc ça, on a une vraie volonté de travailler avec les différents partenaires sociaux pour trouver des solutions qui soient pragmatiques, mais surtout qui soient efficaces, et donc c'est véritablement l'objet de ces prochains jours de conférence. Des pistes concrètes, elles seront proposées quand on aura validé les choses avec les partenaires sociaux. On a vraiment cet esprit collaboratif de travailler avec la société civile et le monde politique. Donc on verra à l'issue de la conférence et peut-être quelques jours après. Mais en tout cas, on veut être pragmatique et efficace.
Le travail nécessite de la confiance, particulièrement vis-à-vis des partenaires sociaux qui souhaitent de la prudence avant toute communication sur les résultats de ce séminaire. C'est ce qu'a dit le président de l'UTCFECGC, Christophe Coulson, qui a pris la parole au début des débats au nom de toutes les organisations syndicales. Après l'emploi, c'est le coût du travail, la compétitivité et le pouvoir d'achat qui seront au centre des débats demain. Tout ce travail doit donc permettre de réformer en profondeur le système fiscal et social. Les textes qui en seront issus seront soumis au vote des élus du Congrès dans les semaines et les mois à venir.
Il y a du changement dans les offres de l'OPT. L'Office des Postes et Télécommunications renforce l'accès au numérique pour tous les Calédoniens. Cette modernisation vise à offrir plus de services sans augmentation de prix. Les clients l'ont d'ailleurs sûrement déjà remarqué. Depuis le 1er mars, ils ont accès à plus de connexions Internet, mais sans modification de leurs tarifs. Il s'agit là du premier bloc de nouveautés présenté par l'OPT. Il y en a deux autres, un qui concerne les utilisateurs de carte Liberté et l'autre les voyageurs. Guillaume Poquet, chef de service marketing communication à la direction Télécom, il nous détaille ses nouveautés.
Le deuxième bloc, c'est une refonte complète de notre offre Liberté qui n'avait pas évolué depuis quelques années maintenant. Donc nous avons fait évoluer à la fois le kit de départ et les rechargements Internet mobile. On a une série de recharges qui seront disponibles via notre application mobile SNC. Et cette série de recharges va permettre aux clients Liberté d'avoir à la fois beaucoup plus d'Internet mobile, mais aussi des recharges qui vont être plus efficaces en termes de prix de communication. Et enfin, le troisième bloc, c'était l'évolution de notre offre voyage. Aujourd'hui, les clients ne pouvaient pas utiliser leur carte SIM locale pour faire de l'Internet à l'étranger. Et à partir du 1er juillet, ils pourront utiliser des passes Internet mobile voyage dans notre zone 1, qui inclut France, Nouvelle-Zélande, Australie, les dom-toms et les destinations préférées des Calédoniens.
Ces nouveaux services seront disponibles dès le 1er juillet de cette année. Ils sont le fruit d'une volonté de modernisation des services de l'OPT. La consommation en Internet des Calédoniens ne cesse en effet d'augmenter, comme l'explique Thomas de Decker, directeur général de l'OPT. Il s'agit d'accompagner ce mouvement.
Il nous paraissait important, après plusieurs années où on n'avait pas trop fait évoluer les derniers forfaits mobiles, c'était important de revoir un peu la gamme, essayer de voir dans quelle mesure, dans ce contexte social, économique assez compliqué, on pouvait redonner du pouvoir d'achat aux Calédoniens, et c'est un peu notre manière à nous de le faire. Aujourd'hui, on voit une croissance de 2 gigas à peu près en moyenne par client et par an. C'est relativement important. Internet est en train de prendre une place de plus en plus importante dans la vie des Calédoniens et il faut qu'on accompagne ce mouvement, évidemment. Après, depuis mai 2024, on a vu un nombre important de clients partir. Les derniers chiffres, on a un peu plus de 4000 clients qu'on a perdus. Donc l'idée, c'était quand même de répercuter ces économies qu'on a pu faire au travers de nos coûts de fonctionnement sur le client.
Et à noter que ces nouvelles offres seront toutes disponibles sur l'application mobile de l'OPT, Mobilis NC. Une cérémonie intimiste, place Birakem. L'association des compagnons du devoir de mémoire, gendarmes, esprit de sacrifice, a organisé un dépôt de gerbes devant le mémorial dédié aux gendarmes et militaires morts en service commandé en Calédonie. Il était organisé pour rendre hommage aux gendarmes qui ont été victimes de la DAC de la gendarmerie de Fayaoué à Ouvéa le 22 avril 1988. Une occasion de commémorer la mémoire des autres gendarmes morts en service sur le territoire. Écoutez le colonel Bayerja, commandant en second de la Gendarmerie nationale en Nouvelle-Calédonie.
C'est toujours important, on a un métier compliqué, un métier qui parfois peut aller jusqu'au sacrifice ultime. Et c'est important pour nous d'honorer tous ceux qui sont tombés pour la gendarmerie, tous ceux qui ont fait sacrifice pour les autres, qui ont donné leur vie pour les autres, et c'est important pour nous d'être présents. C'est d'autant plus sensible depuis avec l'année 2024, où effectivement nous avons perdu deux de nos camarades en Nouvelle-Calédonie, donc ça redonne une nouvelle dimension à cette cérémonie de dommage aux gendarmes qui sont décédés.
Cette cérémonie était organisée par les Compagnons du devoir de mémoire Gendarmes Esprit de Sacrifice, une association présidée par Bernard Godel, lui-même ancien retraité.
Elle a une grande importance pour nous retraités de la gendarmerie, parce qu'elle nous rappelle quand même le sacrifice de 5 de nos gendarmes et de gendarmes qui ont été pris en otage à l'époque. Donc ça a été une période assez difficile, cruelle pour les familles. C'est une époque qu'on croyait révolue. Et malheureusement, les événements du 13 mai ont fait que nous avons encore perdu deux gendarmes, dont un dans une condition tragique, puisqu'il a été tué par balle. Et on ne cesse de rappeler que, de toute façon, la paix, mais la paix est difficile à instaurer en Nouvelle-Calédonie. Et ce sont les forces de l'ordre qui payent le plus lourd tribut, quoi qu'on en pense. Pour moi, c'est un sacrifice, c'est des pertes de vie humaine, c'est un drame pour leur famille, c'est un drame pour leurs camarades. Donc, en fait, chaque fois qu'on dépose une germe, on a le cœur qui bat un peu plus vite. On pense que nous, les retraités, on a échappé. Et nos camarades ont payé pour nous.
Un des propos recueillis par Nicolas Legrand. Autre cérémonie en hommage aux gendarmes morts à Fayaoué le 22 avril 1988. Elle s'est déroulée en fin d'après-midi au mémorial de Dimbéa, installé à l'ancienne mairie de la commune, où nous retrouvons Charlotte Coulson.
Oui Lionel, la gendarmerie ne pleure pas ses morts, mais les honore. Ce sont les mots du général Mathéos, le commandant de la gendarmerie, lors de cette cérémonie d'hommage aux camarades tombés il y a 37 ans maintenant à Ouvéa. Une cérémonie encore plus émouvante cette année, selon le président de l'Amicale des retraités de la gendarmerie, Jean-Marie Villard, puisque les 1 an de la mort du gendarme Molinari seront bientôt célébrés à leur tour. L'émotion était donc vive. C'est une date que je ne pourrai jamais effacer. Perdre 4 camarades, c'est un souvenir toujours fort. Le 22 avril est une date aussi importante que le 14 juillet pour moi. Ce sont les mots de Jean-Marie Villard. Cette cérémonie d'hommage a réuni beaucoup de monde à la mairie annexe de Dimbéa, où installe cet honneur aux gendarmes morts à Ouvéa. Une commémoration à laquelle a donc naturellement assisté le maire de la commune, Johan Lecourieux. En direct de la mairie annexe de Dimbéa, Charlotte Coulson, RRB.
Merci Charlotte. Combien sommes-nous en Nouvelle-Calédonie ? Le recensement a débuté ce mardi sur l'ensemble du territoire. Les agents de l'ISEE ont jusqu'au 22 mai pour effectuer le recensement de la population, Jean-François.
Le territoire a été réparti en 17 secteurs, dont 6 sur Nouméa. Ce matin, Léo Fichou a pu suivre Jacob, agent recenseur à Magenta, Wemo, Porte de Fer et Aérodrome. Le recensement, c'est une première pour lui, mais il sait à quel point c'est important pour le territoire.
Déjà, le recensement, c'est un bon outil pour nous, pour la population. Je trouve que c'est important de le faire parce qu'en ce moment, il y a des soucis un peu par là, par-ci, par-là. Ça peut aider à sortir de ça, quoi. Moi, ce matin, je vais chez les particuliers, je vais chez des personnes pour leur poser des questions et savoir à peu près combien ils sont dans chaque logement. Déjà, je me présente. Et je leur explique à peu près la démarche, ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Il est important que j'ai ma tenue, c'est-à-dire mon chasuble. Et le plus important, c'est ma carte, c'est-à-dire qui est accrochée autour de mon cou, qui certifie que je fais bien partie des agents recenseurs.
Et pas de refus de répondre aux questions des agents recenseurs ce matin, mais plus de nombreux appartements étaient vides. Les propriétaires ou locataires sont alors avertis du passage de l'agent et pourront prendre rendez-vous avec lui directement par téléphone. Piment était chez lui, il a donc répondu volontiers aux questions de l'agent recenseur, un moment d'échange et de partage apprécié.
Non, c'est un super gars, un jeune, qui a de l'avenir. Et puis je lui ai offert même le café. Je passe un bon petit moment avec lui. Je pourrais répondre à toutes les questions qu'il voulait. Et j'ai bien aimé, on a partagé 2-3 petits trucs ensemble.
Une question que j'ai retenue un peu basique, je demande si on avait un toilette dans l'appartement. Là, j'ai rigolé un peu. Non, sinon, c'est très bien, ça fait du travail pour les jeunes, quoi.
Et si vous avez un doute sur l'identité d'un agent recenseur, un numéro vert a été mis en place par l'ISEE. Il s'agit du 05-200, le 05-200. Lors du dernier recensement en 2019, la Calédonie comptait 271 407 habitants.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Êtes-vous impatient de connaître les résultats du recensement pour savoir combien nous sommes d'habitants en Calédonie? Si vous êtes impatient, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez bien sûr votre réponse au 3146. 18h09, une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité dans la région Pacifique, un peu de sport et la météo.
3 francs de remise tous les jours et le mardi c'est même 5 francs et des points accumulés.
Avec vos stations Shell et Pacific, bénéficiez d'une remise sur le carburant de 3 francs par litre tous les jours grâce à votre carte fidélité. Et encore mieux, c'est 5 francs par litre le mardi et tous les jours que je cumule des points qui se transforment en bons d'achat. Les stations Shell et Pacific, toujours à vos côtés pour économiser.
My Primeur propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primeur Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primeur, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Lionel Sabot.
Et l'actualité dans la région Pacifique, le premier ministre fidjien Sitiviri Rambuka s'apprête à effectuer des voyages officiels à Singapour et en Indonésie où il rencontrera notamment ses homologues des deux pays. Correspondance Jean-Pierre Zajac.
Sitiviri Rambuka a précisé dans un communiqué que ce voyage, je cite, « fait partie des efforts déployés par les îles Fidji afin d'approfondir leurs relations bilatérales et explorer de nouvelles voies de coopération dans les secteurs d'intérêt commun. » À cet effet, il va rencontrer le Premier ministre singapourien, Lawrence Wong, pour discuter avec lui du renforcement des liens économiques qui unissent déjà les deux pays. Ils évoqueront aussi la possibilité de coopérer en matière de développement régional et mondial. Sitiviri Rambuka se rendra également à Jakarta, où il rencontrera le président Prabowo Subianto, avec lequel il renforcera la coopération entre les îles Fidji et l'Indonésie, notamment dans les domaines clés de l'éducation, de l'agriculture, de la gestion des risques de catastrophes et surtout dans celui de la sécurité régionale. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
Allez, nous allons parler sport à présent. Les mini-jeux du Pacifique, c'est dans un peu plus de 2 mois. Mais les différentes disciplines n'ont plus que quelques jours jusqu'au 1er mai pour envoyer la liste des athlètes sélectionnés au CTOS, Jean-François.
Oui, des mini-jeux du Pacifique à Palau en format réduit pour la délégation calédonienne puisque seulement 8 disciplines seront représentées au lieu de 11 habituellement, en raison évidemment d'un budget contraint. Le CTOS a donc misé sur l'athlétisme avec l'handiathlé, le tennis de table, le triathlon, la natation, l'haltérophilie, le volley et le beach volley. Christophe Dabin, président du comité territorial olympique et sportif, rappelle aux différentes disciplines qu'elles n'ont plus que quelques jours, jusqu'au 1er mai, pour envoyer la liste des athlètes sélectionnés. Une fois les listes reçues, le CTOS réunira son conseil d'administration pour valider ou non la présence d'athlètes calédoniens qui partiront du 29 juin au 7 juillet à Palau.
Et puis l'actualité sportive sur le territoire, c'est en mer que ça se passe. À 2 mois de la Groupama Race, les équipages ont participé à une régate ce week-end. Et ça y est, toute la flotte est arrivée.
Les 17 équipages étaient partis de la baie des Citrons samedi matin, direction Bouraille et retour. Après 2 jours de course, il ne restait plus que 2 équipages en mer. Et finalement, toute la flotte est bien arrivée. Le dernier a passé la ligne d'arrivée hier après-midi. Lucas Malige est responsable de la base de voile et directeur de la course.
La plus grande difficulté pour les concurrents, ça a été les nuits. Avec du vent faible, on subit d'autant plus la houle. On a du mal à avancer. Il faut être très concentré, au taquet tout le temps pour éviter de tomber dans les zones où il n'y a vraiment pas de vent, chercher la moindre risée, se battre en continu pour avoir les bonnes voiles à tout moment. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était le choix tactique, puisque les concurrents devaient donc sortir du lagon et y re-rentrer, mais ils n'avaient pas d'obligation sur quel passe prendre pour rentrer ni pour sortir. Donc on a vu au travers de la flotte beaucoup de choix différents, Certains qui ont fait tout à l'extérieur dès le phare Amédée et qui sont rentrés très vite, d'autres qui ont viré la bouée au niveau du phare mais qui sont tout de suite rentrés dans le lagon, qui sont ressortis un peu plus tard. Donc plein d'options différentes, très intéressant à suivre et le classement devrait arriver dans la journée ou demain.
Une régate qui a permis de préparer la course que tout le monde attend, la Groupama Race.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'était pour l'occasion pour les équipages de se mettre en mode offshore, en mode large, en mode navigation en quart, avec donc de la nuit, du jour, de la nuit, mais faire marcher le bateau à 100% du temps. Et donc ouais, c'est une bonne petite préparation pour la Groupama qui devrait durer entre 4 et 6 jours en fonction du bateau.
Le classement en temps réel, en tout cas le top 3, est composé de l'équipage MLS FCD Pulpito devant BNC Léon et Speed Marine MSC Julti Pleasures. De son côté, la Groupama Race s'élancera le 15 juin depuis Nouméa.
Allez, on termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Nicolas.
Oui, alors cette nuit, le territoire sera recouvert de nuages. De faibles averses toucheront Belep, le nord-est et OVA. Puis elles se feront plus nombreuses et localement fortes, voire orageuses en seconde partie de nuit. Le vent de secteur sud-est soufflera entre 10 et 15 nœuds et se renforcera entre 15 et 20 nœuds sur l'extrême nord, le nord-est et OVA. Les températures minimales s'échelonneront de 20 à 24 degrés. Demain matin, le ciel sera très nuageux à couvert. Des averses parfois orageuses concerneront surtout la façade est et les loyautés, dans une moindre mesure la pointe sud. Des averses circuleront également sur l'ouest, mais elles seront généralement faibles. Le vent d'est à sud-est soufflera entre 15 et 20 nœuds. Des rafales de l'ordre de 32 seront possibles au Loyauté et la pointe nord sous fortes averses, Lionel.
Merci Nicolas, à la fin de ce journal. Il est 18h15. Merci de l'avoir suivi.